Voici les chroniques littorales avec José-Emmanuel Lamarque. Bonjour.
Bonjour Mathilde Munoz.
Alors le vendredi, vous allez venir systématiquement désormais avec un livre à présenter à nos auditeurs.
Un livre de mer et d'océan.
Voilà, un livre de mer et d'océan. Et ce matin, un livre qui va nous inviter à découvrir l'Arctique, mais à travers l'histoire avec un grand H.
Et oui, ce grâce à l'ouvrage de Dominique Lebrun, Arctique, l'histoire secrète. Parce que l'Arctique a toujours été un sujet géostratégique dans l'histoire. Et ce, tenez-vous bien Mathilde, depuis Pythéas, l'explorateur grec de Massalia. N'est-ce pas Dominique Lebrun ?
Ah bien sûr, Pythéas qui, depuis Marseille, 3 siècles avant Jésus-Christ, détermine par le calcul qu'il existe un endroit de la planète où le soleil ne se couche jamais en été et où la nuit ne s'arrête pas en hiver.
Et depuis Marseille ?
Depuis Marseille, par le calcul, tout simplement. Parce que ce garçon a été capable de calculer l'inclinaison de l'écliptique. Quand un globe terrestre est posé sur son pied, vous avez remarqué, il n'est pas droit. Il y a un certain angle, l'écliptique, c'est ça. Et ayant mesuré cet angle, il sait par le calcul que, logiquement, en été, il ne fait pas nuit au-dessus d'une certaine latitude.
Que se passe-t-il après Pythéas ? Parce que cet Arctique, on en entend parler depuis le changement climatique, mais on peut dire que pendant des siècles, très peu en ont parlé de cet Arctique.
On parle de l'Arctique par période et pour des raisons qui sont très précises. La première, ça consiste à trouver une route vers la Chine, en passant par le nord du continent américain, passage du nord-ouest, ou par le nord du continent européen, la Sibérie, qui serait le passage du nord-est. Une fois qu'on n'a plus besoin de trouver ces routes maritimes, pour des raisons politiques, à l'origine, c'était le partage du monde, comme on le sait, entre les Espagnols et les Portugais.
Et les Portugais.
Suite au traité de Tordesillas, donc une bulle papale, qui faisait que puisque les passages étaient bloqués par le sud, il fallait chercher quelque chose, si ça existait, par le nord. Jacques Cartier, qui découvre le Canada, cherchait le passage du nord-ouest.
La mer libre.
Alors, si la route par le pôle nord devient possible, on est en eau libre, il n'y a plus le moindre souci d'autorisation, premier point. Deuxième point, c'est plus court. Actuellement, la Chine est en train de construire un brise-glace nucléaire dont la puissance est 2 fois celle du porte-avions Charles de Gaulle, si ça vous dit quelque chose, et qui serait capable d'aller à 10 nœuds et en écartant des glaces de 2 mètres d'épaisseur.
10 nœuds, on multiplie par 1,8. Hein.
Par 1,8, donc multiplié par 2, vous enlevez le dixième.
Voilà.
Donc ça veut dire, grosso modo, à 16 km/h, 2 mètres de glace, c'est pas un problème, on ouvre la route, les cargos suivent. Là, c'est inimaginable, en fait. C'est inimaginable.
On va le dire, ça dépote. Hein.
Ça dépote, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quel est l'intérêt des routes du Nord ? Pas compliqué, par rapport à la route traditionnelle du canal de Suez, un tiers à 50% de temps et donc de carburant en moins dépensé. Autre intérêt, c'est l'exploitation pétrolière, le sous-sol. En réalité, il semblerait que les conditions soient tellement difficiles que les risques d'accident sont trop élevés et personne ne veut courir le risque de se voir accusé d'une marée noire dans ces eaux-là. La pêche devient très intéressante aussi, puisque donc moins de glace, des poissons que l'on n'avait pas vus s'y trouvent, mais en revanche, plusieurs pays se trouvent concernés par ça.
C'est éviter aussi beaucoup de détroits qui sont aujourd'hui très dangereux militairement, et là, on a une navigation plus paisible.
Tout à fait juste. Donc, évidemment, si on peut éviter tous ces terrains-là pour se trouver, à supposer que la situation devienne conflictuelle avec la Russie, avec le Canada, avec les États-Unis, comment dire, on s'arrange. La diplomatie fait l'affaire. Ailleurs, mon Dieu, c'est plus compliqué.
Ce qui veut dire que nous avons déjà, mais nous auront aussi des diplomates formés à la diplomatie de l'Arctique, comme par exemple notre ami Laurent Maillet.
Ah bah absolument. J'ai le bonheur d'assister à des rencontres où interviennent des gens extrêmement compétents, qui ont une vision géostratégique très très large des choses, et comment dire, on a la sensation heureuse de ne pas être entre les mains d'irresponsables.
On pourrait inventer, Dominique Lebrun, un néologisme, puisqu'on dit toujours s'orienter. S'orienter, ça veut dire regarder vers l'Orient. On pourrait peut-être inventer se n'orienter.
Se n'orienter. Ah, on peut chercher le mot pour ouvrir un concours. Bah, ça me plairait bien.
Ou s'arctiser.
Ah, s'arctiser, c'est très beau. On garde s'arctiser. On ne s'oriente plus.
Un petit coup de fil à l'Académie française et c'est plié, non ? S'arctiser.
Ouais. Enfin, bah oui, s'orienter. On parle toujours de s'orienter. Pourquoi pas s'arctiser ?
J'aime beaucoup aussi.
Il s'agit de l'Arctique, l'histoire secrète chez Omnibus, écrite par Dominique Lebrun.
Mathilde. Votre invité, José-Emmanuel Lamarque, dans ses chroniques littorales.